France Culture. Les midis de culture. Marie Sorbier.
En 1987, mon invité était Rodrigue sur les planches de la cour d'honneur du Palais des Papes dans une version intégrale du soulier de satin qui reste dans les mémoires de ceux qui y étaient et même de ceux qui n'y étaient pas. La mise en scène d'Antoine Vitesse se déployait sur une nuit entière et offrait ce que le théâtre produit de plus beau, une communion nocturne entre les spectateurs et les acteurs autour du souffle de Claudel et des affres de l'amour. Je n'y étais pas, mais j'ai beaucoup interrogé ceux qui y étaient. Tous racontent une aventure hors norme, une épopée parfois inconfortable mais fondatrice. Le théâtre est, me semble-t-il, l'outil majestueux et éphémère de ces grandes traversées. Et nous, spectateurs de 2025, avons de la chance. Une nouvelle aventure est possible à la Comédie Française et Didier Sandre est toujours membre de l'équipage. Bonjour Didier Sandre.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans les Midis de Culture. Éric Ruff s'est donné un sacré défi pour cette dernière création à la Comédie Française. Le soulier de satin de Paul Claudel n'a été monté que 3 fois dans son intégralité auparavant. La première par Jean-Louis Barrault en 1943, puis en 1987 par Antoine Vitesse au Festival d'Avignon, on vient d'en parler, et en 2003 par Olivier Py. C'est une pièce difficile à porter sur scène car non seulement elle dure au moins 7 heures, mais en plus elle met en jeu des centaines de personnages, des lieux très différents, et son intrigue s'étale sur plus de 30 ans. Est-ce que vous êtes heureux, Didier Sandre, de vous plonger à nouveau dans cette prose claudélienne ?
Ah oui, je suis émerveillé. Vous savez, en 87, quand on a fait cette première traversée, avec ce personnage de Rodrigue, ça ne vous quitte pas. Il y a avant et après, et vous entendre évoquer ces représentations de 87, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir la gorge serrée parce que tellement cet événement théâtral, cet événement théâtre, mais cet événement aussi au niveau des spectateurs, au niveau de la communauté des amateurs de théâtre je crois qu'on a tous la nostalgie de cette communauté-là de spectateurs. Pas être simplement des consommateurs de spectacles, de divertissements, de soirées plus ou moins patrimoniales, etc. Mais quelque chose de fusionnel entre la langue française, entre le plateau, entre les comédiens et entre les spectateurs. Et on assiste à nouveau à ça, à la Comédie Française en ce moment. Et pour moi, c'est un ravissement.
Est-ce que le corps garde une mémoire d'un rôle joué il y a presque 40 ans ?
37.
37, pardon. J'ai arrondi trop vite.
Mais absolument. J'ai joué beaucoup de rôles depuis 87, depuis ce Rodrigue-là, et y compris d'autres rôles de Claudel, le partage du midi notamment. Mais c'est incroyable à quel point le corps garde les traces quand c'est des choses importantes. Enfin, pour moi, en tant qu'acteur, j'étais déjà un acteur confirmé, disons, quand j'ai joué Rodrigue, mais il y a quand même avant et après. Il y a cette rencontre avec Antoine Vitesse, il y a cette façon, cette main avec laquelle il a pris la troupe et qu'il a emmené vers la langue de Claudel. Parce que ce qui était extraordinaire dans la direction d'Antoine Vitesse, c'est que il faisait faire corps la langue avec les acteurs. La langue et les acteurs étaient un même corps. Il n'y avait pas de construction de personnages de façon psychologique ou émotionnelle, etc. C'était la langue qui guidait. Ça, ça a été l'œuvre d'un passeur extraordinaire pour ça.
Parler de la langue, vous étiez alors Rodrigue en 87, vous êtes aujourd'hui Dom Pélage, vous oui. étiez l'amoureux transi et le conquérant du Nouveau Monde, vous êtes aujourd'hui le mari austère. Est-ce que vous comprenez différemment le texte en l'abordant par une autre face ? Est-ce que vous découvrez encore des phrases ?
Absolument. D'abord parce que quand on joue Rodrigue, les premières scènes, comme celle de Dom Pélage, les premières journées, les deux premières journées, moi j'étais très concentré sur l'énergie à conserver, à déployer pour le reste du personnage et le reste des journées, ce qui fait que j'entendais les scènes dans le retour, mais c'était assez un peu vague. Et quand Eric m'a demandé de jouer Dom Pélage, Eric Ruff, oui. J'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait, c'est-à-dire il voulait établir une espèce de filiation entre Antoine Vitez, moi, l'ancien Rodrigue, et l'ancien Rodrigue jouant avec la nouvelle prouesse qui est la fille de ma prouesse à moi, la fille de Lumina Michael, qui est jouée aujourd'hui par Marina Hans. Donc cette espèce d'alchimie mystérieuse qui formait un peu histoire du théâtre, j'ai tout de suite compris que je pourrais pas dire non.
Est-ce que vous avez senti une charge de transmettre à Baptiste Chabotis, qui joue aujourd'hui Rodrigue, votre expérience ? Est-ce qu'il y a eu cette transmission-là entre vous deux ?
Pas du tout. Je me suis senti très, très éloigné. D'abord parce que je n'ai pas assisté au début des répétitions parce que j'étais en Chine. J'étais en Chine avec les Fourberies de Scapin, dans lesquelles je jouais Géronte. Et donc je n'ai pas assisté aux premières répétitions. Et j'ai pris les répétitions en cours de route et j'ai manqué beaucoup de choses de ce qui a uni la troupe, notamment les répétitions de chant choral, etc. Tout ce qui a fait le corps de la troupe. Je suis arrivé un peu parachuté dans ce personnage de Pélage et dans la troupe constituée par Eric. Et quand je lisais les bulletins de service, les feuilles de travail d'emploi du temps, à chaque fois qu'on mettait Rodrigue Prouesse, je répète. C'était irrépressible.
Vous aviez un vertige temporel.
Oui, j'avais un vertige. Rodrigue ne m'a pas quitté. Donc, par respect pour Baptiste, je voulais faire oublier le plus possible que j'avais été Rodrigue. Donc, j'ai été un peu en retrait. Maintenant qu'il a joué, qu'il a commencé à jouer, qu'il possède le rôle, qu'il s'en est emparé, j'ai envie de l'embrasser tout le temps. Je suis mon frère Rodrigue. Et c'est drôle parce que c'est réciproque. Inconsciemment, au moment des saluts, par exemple, il se rapproche irrépressiblement de moi. C'est très touchant.
C'est une filiation qu'on voit sur scène.
Vous êtes à moi tant que vous êtes capable de me rendre service.
Quel service ? Quand celui-ci même, je le vois mourir sous mes yeux.
Pensez-vous que ce serait un service de l'empêcher de mourir ?
Je ne veux pas qu'il meure.
Quelle alternative avez-vous à lui proposer ? Quel genre de bonheur seriez-vous capable de lui apporter s'il vivait ?
Mon âme, s'il la possédait, je sais qu'elle l'empêcherait de mourir, car quand est-ce que je cesserais d'avoir besoin de lui ?
Ton âme, pour qu'il la possède, il faudrait que tu fusses capable de lui donner.
Si je me donne, est-ce autrement que tout entière ?
Non. Pas entière.
Non. Pas entière. Non. Pas entière. Parole trop vraie, dure et véridique parole.
Mais ce que vous avez remis à un autre, vous ne pouvez le lui donner. Ce que vous lui donnerez, ce n'est plus vous-même, ce n'est plus la créature de Dieu, ce n'est plus l'enfant de Dieu. À la place du salut, vous ne pouvez lui donner que le plaisir.
Un tel désir m'a-t-il été donné pour le mal ? Une chose si fondamentale, comment peut-elle être mauvaise ?
Mais ce qui ne fait aucun bien ne peut être que mauvais.
On vous entend ici Didier Sandre avec Marina Hans qui interprète Prouesse. Prouesse aime Rodrigue qui se meurt, mais elle est mariée avec Dom Pélage qui lui rappelle qu'elle ne dispose plus d'elle-même entièrement et qu'elle ne peut donner son âme à son amant. Ce thème de l'amour absolu, de l'amour sans tache, il file tout le long de ces quatre journées de cette pièce. Et là encore, dans cette mise en scène d'Éric Ruff, une histoire de traces qui perdure, puisque vous l'avez évoqué, dans la mise en scène de Vitez, c'était Ludmila Michael qui donnait la réplique à Rodrigue, la mère de Marina Hans. Comment vous avez travaillé toutes ces correspondances, toutes ces fantômes ?
Avec beaucoup de distance. Parce que je pense que pour Marina, c'était une valise assez lourde à porter. Et j'ai fait en sorte de ne jamais, jamais être intrusif par rapport à cette intimité-là, par rapport à cette charge-là. Je suis resté le plus distant possible vis-à-vis de ce passé. Elle avait 12 ans quand elle a vu le soulier de satin. Mais pour Ludmilla, comme pour moi, les rôles ont été emblématiques dans nos carrières. Donc pour Marina, c'est un héritage, comme je disais, un peu lourd à porter. Donc je voulais pas me priver de la chance, de la possibilité de m'approcher de Marina sans qu'il y ait des crans, sans qu'il y ait des fantômes entre nous. Je voulais vraiment que sa prouesse et mon pélage aient une chance de se rencontrer hors contexte.
La captation de cette mise en scène de vitesse dont on parle de 1987 existe ? Est-ce que c'est un outil de travail pour vous aujourd'hui ? Est-ce qu'on regarde ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Parce que d'abord, on a un regard rétrospectif sur son travail qui est souvent négatif. Je viens d'entendre un extrait, je me trouve épouvantable, etc. Donc ça peut pas être une aide. Non, c'est le théâtre, c'est ici et maintenant, c'est dans le temps où ça se passe que ça existe et pour les gens qui sont là à ce moment-là. C'est un document, c'est une archive, c'est un témoin, et je pense que pour les générations futures, par exemple, c'est extrêmement important. Je sais que c'est une vidéo qui circule beaucoup dans les conservatoires, etc., et qui est une sorte de portail pour l'œuvre, pour l'œuvre qui reste monumentale. Et la première fois que j'ai lu le soulier de satin, quand j'ai su que Antoine voulait me proposer Rodrigue, je m'endormais toutes les cinq pages. Je disais, mais je comprenais rien à ce que ça racontait. C'est très intimidant. La langue est très curieuse parce que c'est une langue qui bouleverse complètement la syntaxe du langage rationnel et qu'on utilise tous les jours. C'est très chaotique, c'est un langage poétique mais qui en même temps est plein de glaise, de terroir, d'accent rural, et d'accent rural et en même temps de réminiscence biblique. C'est une espèce de matière comme ça très difficile à manipuler. Et je pense que de le voir représenté, ça donne une familiarité quand même, en se disant « oui, ça doit être possible puisqu'ils l'ont fait ».
Dans cette mise en scène, justement, Eric Ruff, lui, a choisi de dégonfler un peu le mysticisme, voire la spiritualité de Claudel. En tout cas, dans les deux premières journées, il souligne vraiment le caractère farcesque du texte. On rit dans cette première partie notamment. Comment ce choix dramaturgique s'est-il fait ?
Alors, je crois que Eric a une passion pour Claudel, un peu comme moi, comme ça, qu'il a beaucoup mis en réserve, en retrait, etc., pour se consacrer à une gestion, à une administration de la maison conviviale, collégiale, non pas pour un public, mais pour des publics, etc., et en proposant une grande diversité de répertoires et d'alternance entre le comique, la création, le sérieux, le tragique, etc. Comme dernière mise en scène avant son départ de la maison, il a voulu offrir son cœur. Mais il n'a pas voulu intimider, il n'a pas voulu repousser le public, il a voulu inviter le public. Et donc je crois qu'il a assoupli des choses qu'il n'aurait peut-être pas assouplies par conviction, mais simplement pour vraiment tendre la main et accueillir les gens dans cette immense saga qui est un chef-d'œuvre du théâtre français qui est si peu monté et qui aujourd'hui n'est possible qu'à la Comédie française. Parce que c'est à la Comédie française qu'il y a la troupe, qu'il y a les ateliers de fabrication, que ce soit pour les toiles peintes, pour les costumes, etc. Tous les chapeaux, tous les perruques, les moustaches, les poils, tout le personnel, tous les ateliers techniques sont là. Et je crois qu'Eric a voulu rendre hommage aussi à cette maison qui est capable d'avoir en son sein tous les métiers du théâtre. Et voilà, donc hommage à la troupe, hommage à la salle Richelieu, hommage au public, hommage aux services, aux ateliers. Ça, je crois que c'était un cadeau extraordinaire.
Vous incarnez aussi, Didier Sandre, plutôt dans la deuxième partie du spectacle, un chancelier, un conseiller du roi. Et là aussi, vous en faites une partition comique. C'est un des plaisirs, j'imagine, de ces grandes fresques théâtrales, de passer dans une même représentation par des registres de jeu très différents.
Oui, d'autant qu'entre les deux parties, je joue Alceste. On ne sera jamais Alceste au studio. Et que pendant que...
La joie de la comédie française.
Voilà, c'est ça. Je cours pour jouer ces leçons de Jouvet au studio et je reviens pour la quatrième partie. Alors, oui, il se trouve que c'est un personnage comique et qui fait rire et ça m'a complètement surpris parce que bon, j'ai pas la réputation d'être un acteur spécialement comique, mais...
C'est une scène là qui fait beaucoup rire, le public rit à gorge déployée dans cette scène frontale avec tous ces chanceliers autour du roi.
C'est une surprise. Et en fait, moi je suis très éloigné des acteurs à numéros, hein, les numéros de comique ou de tragique, etc. J'aime bien l'obéissance au texte. Et là, je me suis rendu compte que c'était le texte qui... Vous savez, les chanceliers, le langage diplomatique, la langue de bois, le parler pour ne rien dire, etc. Claudel en connaissait un rayon.
Il a été diplomate,
consul, ambassadeur, etc. Il connaît parfaitement ce langage stérile, stéréotypé, etc. Et en fait, dans ce morceau du chancelier, c'est un glossaire, c'est un répertoire de toutes les phrases de langue de bois qu'on peut sortir dans une occasion officielle.
On colle souvent l'étiquette d'auteur catholique à Paul Claudel. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous, qu'il connaissait bien, le décririez, le définiriez ?
Oui, mais moi, le poète catholique, c'est-à-dire ce poète à globules rouges, comme l'appelait André Gide, m'intéresse pas plus que ça. Ce qui m'intéresse chez Claudel, c'est la quête spirituelle. Lui, il en a fait une affaire catholique. Moi, je suis d'éducation protestante, je veux dire, et je suis très éloigné de tout ce qu'est le catholicisme.
Il n'était pas très tendre, d'ailleurs, avec les protestants.
Mais non, d'ailleurs, dans la scène que j'ai avec Prouès, elle le dit, vous êtes comme les protestants qui veulent leur récompense tout de suite. Enfin bon, toute la correspondance avec Gide est très marrante parce qu'il voulait vraiment convertir Gide. C'est cet homme déchiré entre la matérialité du monde et la matérialité des passions et du désir et de la chair, etc. Et cette aspiration spirituelle, malgré tout, c'est cette espèce d'écartèlement comme ça qu'il vivait, mais qu'il incarnait en quelque sorte, qui m'intéresse.
Écartèlement qu'il a vraiment fait passer dans son œuvre et dans son théâtre. Alors, Paul Claudel était lui-même surpris qu'en 1943, la Comédie française et Jean-Louis Barrault s'attaquent à sa pièce. Alors, tendez l'oreille, le son n'est pas d'une très grande qualité, mais l'émotion et la fierté de l'auteur s'entendent, elles, très bien.
J'ai toujours considéré que sa représentation était une chose désirable. Le livre ne se suffit pas à lui-même. La pièce a été écrite pour le public et dans l'intention du public. Peut-être arrivera-t-il un jour que la pièce pourra être représentée dans son intégralité. En tout cas, la forme que je lui ai donnée a l'avantage de rendre l'idée essentielle, l'ossature, si vous voulez, de la pièce plus compréhensible pour le public. Pour ça, j'ai dû faire le sacrifice de ce que j'appellerais le branchage de la pièce, de l'épanouissement dans l'espace et dans le temps de l'action essentielle. Mais je crois que l'idée profonde, l'idée maîtresse, n'en ressortira que plus clairement pour le public.
Ah ben c'est extrêmement intéressant. Est-ce que j'ose vous poser une question, si elle est indiscrète? Vous ne me répondrez pas. Est-ce que vous pensiez à l'époque que votre œuvre pourrait être représentée sur la scène de la Comédie française?
Eh bien, je ne pensais pas précisément à aucun théâtre. Je n'osais pas élever mon ambition jusqu'à la Comédie française. À ce moment-là, il a fallu une série de circonstances. Il a fallu surtout qu'un homme comme M. Vaudoyer soit appelé à la direction pour que des espérances me soient venues de ce côté et qu'elles aient été réalisées grâce à M. Vaudoyer, que je ne serai jamais assez remercié, et grâce aussi à mon ami Jean-Louis Barrault, avec qui j'ai contracté une amitié intime et avec qui je suis en complète communauté de convictions artistiques.
Car c'est un grand bonhomme de théâtre, disons-le. Ah,
j'ai la plus grande et la plus sincère admiration pour lui. Non seulement comme acteur, mais je dirais comme capitaine, hein, comme ingénieur dramatique, comme metteur en scène. Il a un talent de mettre en mouvement les gens et les choses, dont je viens encore de constater les résultats au cours des répétitions que je viens de suivre.
C'est Paul Claudel qu'on vient d'entendre dans cet archive de 1943.
Metteur en scène, un ingénieur dramatique, c'est génial.
C'est un joli titre.
Et voyez, en écoutant parler, j'ai beaucoup écouté ces interviews de Jean Amrouche, etc., pour comprendre la phraséologie et la façon dont il parle. Voilà comme il parle presque avec un accent, oui. L'accent du terroir, en bougonnant, en espèce de choses un peu bougonnes comme ça que j'aime beaucoup et qui, quand on le lit avec ce souvenir, le souvenir de la façon dont il dit ses textes, aide beaucoup à comprendre la syntaxe, à comprendre sa parole poétique.
Il parle de Jean-Louis Barrault en disant capitaine. Vous avez parlé de vitesse en parlant de passeur. Comment vous définiriez aujourd'hui Éric Ruff comme metteur en scène du Soulier de Satin ?
Ah, c'est... Pour moi, j'hésite beaucoup, mais ce qui s'impose à moi, c'est, je me dis que c'est un Rodrigue.
Il aurait pu jouer Rodrigue ?
Je ne sais pas s'il aurait pu le jouer, mais je pense qu'il est cette dimension entre l'ambition temporelle, séculière de ces postes d'administrateur, de dirigeant, de vice-roi, hein, comme le vice-roi des Indes, etc. Cette capacité qu'il a eue à diriger cette maison pendant 9 ans, après en avoir été pensionnaire, sociétaire, etc. Et cette aspiration transcendantale, spirituelle, mystique presque, fait partie aussi du personnage. Et c'est pourquoi c'est une définition du personnage de Rodrigue, oui.
Vous aviez, pendant le confinement, déjà travaillé avec la troupe sur le Soulier de Satin en proposant ce qu'on appelle une lecture à la table. Est-ce qu'il reste des traces dans la mise en scène actuelle de ce travail préliminaire ?
Aucun. Aucun, parce que c'était des acteurs différents qui avaient organisé la mise en scène des différentes journées. Moi, je jouais la quatrième journée, le vieux Rodrigue, et j'étais très, très dubitatif sur le fait quand on n'a pas joué les 3 précédentes journées, comme je l'avais fait en 87, comment joue-t-on la quatrième journée ? Et en fait, les 30 ans qui me séparaient de ces représentations de 87, il y avait 30 ans de vie, il y avait 30 ans de vieillissement, etc. Et j'avais une quarantaine d'années quand j'ai joué en 87. Donc là, j'avais l'âge du rôle, en quelque sorte, le poids de vie. Et toute cette désillusion et toute cette dérision du vieux Rodrigue qui est une espèce de clown céleste comme ça, qui a échoué et que... Dans toutes ses ambitions politiques, ses ambitions spirituelles, et qui est tenaillé par cette épée, par sa fille, qui lui dit « Mais non, papa, ne renonce pas, on peut encore !» Et il lui dit « Mais non, ma fille, mais c'est trop tard, c'est fini, etc. » Donc, cette espèce de désenchantement dérisoire, je crois que j'étais plus à même de l'incarner, de le comprendre et de le vivre à travers ce texte quand je l'ai enregistré.
Je vous pose cette question parce que une des difficultés à mettre en scène le Soulier de Satin, ce sont notamment les décors. Les scènes se passent sur plusieurs continents, sur la terre, sur la mer, on voyage de l'Espagne au Maroc en passant par les Indes. Et dans cette mise en scène, c'est presque à nu que le théâtre se dévoile. Le spectateur découvre un plateau dépouillé, brut, d'une grande puissance d'évocation. Et c'est la troupe qui prend en charge tout l'imaginaire, aidée quand même, et je dois les nommer, hein, par ses costumes d'une finesse et d'une élégance merveilleuse, signé Christian Lacroix. Est-ce que le jeu d'acteur change selon la scénographie dans laquelle il évolue ? Est-ce que ce plateau brut vous a permis de jouer différemment ?
C'est-à-dire le plateau brut, c'est une mise à nu, hein, c'est une mise à nu du théâtre, et donc c'est une mise à nu des acteurs. De la même façon qu'il nous a demandé de circuler parmi le public avant la représentation, c'est-à-dire d'être des gens comme tout le monde, qui invitent, qui installent, qui offrent des fraises.
Des fraises que certains membres du public doivent remettre, hein, à l'arrivée.
Pas des fraises à sucrer, mais des fraises à mettre autour du cou.
D'ailleurs, ça produit un son très beau, ces fraises en papier.
Oui,
Au moment où on les met, où on les enlève.
Et donc, du coup, il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de paravent, il n'y a pas de... Il y a une communauté entre le spectateur et l'acteur qui s'installe dès le début du spectacle. Je parle d'une mise à nu. Et après, il y a cette espèce de salto qu'il faut faire après pour plonger dans le personnage qui n'a plus rien à voir avec l'acteur qui a accueilli le public ou un personnage de tous les jours.
J'ai eu la sensation très vive en venant découvrir il y a quelques jours cette mise en scène aux Français que c'était finalement une pièce sur la joie et sur la beauté d'être en vie. C'est ce qui m'est apparu le plus évident dans votre proposition. Est-ce que jouer ce texte vous fait toucher du doigt cette joie claudélienne dont il a si bien écrit les contours ?
Oui, il y a la joie. Oui, cette joie mystique, hein, cette joie spirituelle, cette joie de... du dépassement de soi, la joie de la transcendance, la joie d'être si petit dans un monde si grand, infini et incompréhensible et mystérieux. Je pense qu'il y a une dimension spirituelle parfois plus forte que dans la représentation qu'en a voulu Eric. Mais bon, on pouvait. Ce qui est étonnant, c'est que Antoine Vitesse, qui était un laïc, d'origine laïque, de famille laïque, etc., était finalement plus mystique dans sa quête du texte de Claudel que Éric, qui a été élevé très religieusement, etc., et qui est au parfum de toutes ces choses-là, a un désir de profanation, profanation par rapport à ça. Plus grand que ne l'avait Antoine.
Mais peut-être qu'il travaille au théâtre une mystique sans Dieu ou une spiritualité sans Dieu, quelque chose qui se rapproche de cet ordre-là.
Ah ben, de toute façon... Que ce soit dans le cas d'Antoine ou d'Éric, c'est sans Dieu.
Les Midi de Culture, c'est malheureusement déjà fini pour aujourd'hui. C'est passé vraiment très vite. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Didier Sandre, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le soulier de satin, mis en scène par Éric Ruff, c'est dans la salle Richelieu, la salle historique de la Comédie Française. C'est jusqu'au 13 avril et les réservations, pour les représentations de mars et avril ouvrent en janvier, donc d'ici quelques jours. Et pour rester encore un peu en Espagne, je vous propose d'écouter le grand chanteur flamenco Niño de Leche, qui lui aussi se produit dans les scènes du théâtre public. Il s'agit de son dernier album et du titre Cantinas de los Reinos.
Que bien te sienta la gorra. Con de la bota que para taco onea.
Cette émission a été préparée par Aïssa Touendoy, Oriane Delacroix, Boris Pinot, Marceau Vassy, Zora Vignezo et Coupé, Lise Ripoche et Louis Cosnard. Elle est réalisée par Anna Holweck avec à la prise de son Jean-Guilain Meige.
Que y el tacón de la bota que para tacón onea.